BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club BFM Crypto sur BFM Business. On va parler de stablecoin, on va parler de succession, on va parler de réglementation également, hein, d'avenir du secteur aussi avec mes invités aujourd'hui. Gwendal Texier est avec nous, notaire, membre de la commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest. Vous êtes aussi cofondateur de l'association notariale des actifs numériques. Ravi de vous avoir et de vous retrouver sur le plateau, Gwendal. Arnaud Toitier est avec nous, cofondateur avocat et associé chez Hashtag Avocat. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Édouard Béliard, vice-président crypto-développement à la banque de Lubac et compagnie. Bonjour Édouard.
Bonjour Sandra.
Bienvenue dans cette émission. Vous savez que vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On y répond les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. On continue avec vous, Gwendal, à parler de succession, de donation et de présence des actifs numériques, finalement, dans nos portefeuilles. Vous nous avez parlé la dernière fois de donation et de partage de Bitcoin. Là, vous nous parlez de l'intérêt d'une donation de Bitcoin avec réserve d'usufruit. Alors déjà, on va rappeler ce que c'est que l'usufruit.
Ouais, c'est peut-être nécessaire.
Ouais.
Donc, l'usufruit, en fait, c'est un droit de jouissance qu'on détient sur un actif. La jouissance, c'est la possibilité de l'utiliser. C'est l'usus, c'est du latin.
Comme en immobilier.
Voilà, comme en immobilier. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse appliquer sur les actifs numériques les mêmes dispositions du droit que sur les autres actifs qu'on connaît bien. Donc, sur le bien immobilier, être usufruitier d'un bien immobilier, c'est pouvoir se loger dans ce bien immobilier, c'est pouvoir le louer et en toucher les loyers. Et le pendant de cet usufruit, c'est ce qu'on appelle la nue propriété. En fait, c'est l'idée d'avoir la propriété plus tard. Aujourd'hui, on a le papier, mais on n'a pas encore tous les droits attachés à ce bien-là. Eh bien, l'idée à appliquer aux actifs numériques et au Bitcoin, c'est de pouvoir transmettre cet actif en se gardant la jouissance de cet actif. Donc, alors c'est peut-être un concept vu de certains sièges, mais en fait, ça peut avoir un intérêt, et ça a un intérêt de pouvoir s'assurer que la personne qu'on veut flécher comme futur propriétaire de cet actif le soit réellement, puisqu'on va transmettre, faire un acte de transmission de son vivant, en se disant, tant que je vis, je vais garder ce bien-là en jouissance, mais à ma mort, il sera définitivement transféré à la personne que j'aurai identifiée. Et ça, c'est un acte assez fort, ça répond potentiellement à pas mal de problématiques justement de cadre, dans le cas de succession, où on ne sait pas où est l'actif, comment il est stocké, comment, à qui il va revenir, comment il est identifié. Bah, si on gère ça de son vivant, ça peut être un bon moyen d'éviter la perte de cet actif.
Je comprends bien la différence entre nue propriété et usufruit sur l'immobilier, parce que là, évidemment, c'est plus simple. Mais comment peut-on diviser cette propriété du Bitcoin entre un nu propriétaire et un usufruitier? C'est la différence que je ne comprends pas, parce que voilà, quand on l'a et qu'on en a l'usage, c'est difficilement divisible.
Alors, on va pas le diviser. En fait, c'est pas, on va pas diviser en satoshi le Bitcoin. On va avoir en résonance sur un Bitcoin qu'on veut léguer ou transmettre à ma mort à mon enfant. Donc, je vais faire un papier, un acte de notarié, un don. Une donation de Bitcoin, je vais dire, je vais te donner ce Bitcoin, on va essayer d'identifier, on va essayer de gérer d'autres aspects matériels de transmission, l'acide, etc. Mais parlons juste de juridique, mais le temps que je vis, je vais pouvoir continuer à faire son usage de ce Bitcoin.
D'accord.
Donc en fait, on va avoir un acte de propriété pour l'enfant donataire, qui va être l'acte de donation. On va avoir tous les aspects fiscaux qui vont être traités, c'est-à-dire valorisation de l'actif, transmission, paiement de la fiscalité. Donc, on sera OK là-dessus. Alors, il y a quelques avantages en plus à le transmettre juste en nue propriété. Mais en fait, on va répondre à tout le process qu'on a également pour la donation de biens immobiliers, par exemple. Et donc, ça veut dire que de mon vivant, je vais pouvoir continuer à disposer de cet actif numérique, de ce Bitcoin. Et dans le contrat, on va écrire toutes les règles du jeu, justement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, comment l'enfant va pouvoir récupérer, de quelle manière, est-ce que j'ai droit de faire le cash-out de l'actif, qui va payer la fiscalité.
Exactement.
Bref, on va raconter toute l'histoire dans le contrat, de sorte que le donateur qui a finalement décidé de vendre cet actif et récupère en contrepartie du cash, on va constituer ce qu'on appelle, alors c'est super technique là, un quasi-usufruit. Mmh. Donc c'est un usufruit sur une chose consentible, donc une somme d'argent. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, l'enfant, il devient créancier, le donataire, l'enfant donataire, devient créancier envers son parent de la valeur de l'actif qu'il a cédé et qu'il pourra récupérer à la succession. Là, je fais plein de droits, je suis désolé. Bon, il y a des gens qui s'y connaissent autour de la table, mais c'est un peu technique, mais ça permet de répondre vraiment à l'idée « j'assure le transfert de propriété à un enfant, mais de mon vivant, je continue à jouir de cet actif, soit en le gardant, soit en pouvant le consommer, et dans ce cas-là, je créerai une créance pour l'enfant. »
De façon plus générale, ça permet d'aborder, devant notaire aussi, cette succession et cette donation, en tout cas l'avenir dans la famille de la détention de Bitcoin ou de crypto-monnaie, ce qui n'est pas encore la majorité évidemment, et on se laisse un peu surprendre à la mort par exemple du détenteur. Ça permet d'aborder ce sujet et de l'amener d'une certaine façon.
Tout à fait. Clairement, c'est presque tabou. De manière générale, la transmission de son patrimoine.
On ne veut pas penser à ce qui se passe après, donc on ne le prépare pas.
Alors, on envisage de plus en plus, on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir pour nous interroger sur les conséquences du décès, l'impact fiscal qui est souvent moteur, en fait, dans certains choix. Mais sur des actifs aussi difficiles ou moins faciles à traiter qu'un actif immobilier ou qu'un compte-titre, par exemple, ça nécessite une préparation plus importante pour s'assurer que ce qu'on a décidé va vraiment se passer tel qu'on le veut. Et tout ça s'anticipe.
J'aimerais bien savoir si vous observez, ça va m'emmener à une question plus générale, si vous observez de plus en plus d'intégration de ce sujet Bitcoin dans les successions que vous traitez, vous, sachant que la détention, la possession en France est restée stable cette année. On l'a vu, 11% des Français détiennent des crypto-actifs, c'était 10% l'année dernière, ça veut dire que ça se stabilise, c'est pas une explosion comme ce qu'on aurait pu penser. Vous, est-ce que vous voyez ça dans ce que vous traitez au quotidien, Gwendal, une stabilité ou ça se démocratise ?
Alors, les notaires ont dû changer la façon d'opérer, c'est-à-dire que maintenant, c'est une question parmi toutes les autres questions de l'inventaire patrimonial qu'on est amené à faire, par exemple, pour du conseil en gestion de patrimoine ou pour le règlement d'une succession. Maintenant, c'est un réflexe aujourd'hui de s'interroger, de savoir si le donateur ou le défunt avait des actifs numériques. Mmh. Parce que pour certains, ça peut être des montants importants, pour d'autres, moins importants, mais ça fait partie des actifs à récupérer, comme des liquidités qu'on a sur des plateformes de vente de vêtements d'occasion, par exemple, pour pouvoir récupérer.
Mais le chiffre est intéressant, j'ai trouvé, Arnaud Toiti, cette stabilisation. Moi, je m'attendais à une explosion, en tout cas, une montée de ces chiffres de possession de crypto-actifs chez les Français. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça dit du marché ? On va revenir, évidemment, sur l'évolution du marché. C'est un sujet important, mais c'est intéressant, ce chiffre.
Oui, je pense qu'il est intéressant, mais il est aussi peut-être à remettre dans le contexte, c'est-à-dire savoir, parmi les 10-11% des gens qui ont de la crypto, quel est le montant moyen de crypto qu'on détient ? Parce qu'en réalité, si on a une augmentation même à 12, 13, 14, 15%, mais qu'on se rend compte que la plupart testent, on détienne 100, 200, 300 euros de crypto, mais pas des montants qui sont réellement significatifs, ça dit aussi qu'en fait, beaucoup de gens, ils détiennent un tout petit peu de crypto, histoire de voir, mais qu'en réalité, il n'y a pas, à ce stade en tout cas, une maturité qui fait qu'on est sur des stratégies d'investissement à long terme, si vous voulez. Donc, peut-être à mesurer également sur le montant médian de détention de chacun des Français en crypto, je pense.
Il y a aussi la façon dont le marché s'est organisé depuis un an ou deux, et je vous regarde, Edouard, parce que un intérêt croissant des opérations en stablecoin. Et les stablecoins sont de plus en plus utilisés, de plus en plus capitalisés. Alors hier, on a commencé à dire que ça n'allait pas forcément aller dans cette direction-là parce qu'il y avait des questions de sécurité, mais ça, j'y reviendrai après. Vous le constatez néanmoins, Edouard ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment la narrative qui est très porteuse en ce moment sur le marché crypto, plus que l'investissement où effectivement je rejoins Arnaud et Gwendal dans leurs propos, qui est bon, c'est évidemment lié à l'adoption, c'est générationnel, c'est aussi lié au, l'évolution du marché aujourd'hui, il est plutôt flat, voire même baissier sur ces derniers mois.
Ouais.
Donc il y a un désintérêt évidemment pour les investisseurs dans un contexte macroéconomique qui n'est pas forcément aussi porteur, géopolitique non plus. Donc les investisseurs sont prudents, surtout les investisseurs qualifiés qui souhaiteraient diversifier leur patrimoine pour de la crypto. Par contre, sur la thématique des stablecoins, c'est complètement différent puisque là, on va davantage s'adresser à une clientèle corporate, des entreprises qui vont en avoir besoin, qui vont s'en servir comme outil de transfert de liquidité. Nous, on s'en rend compte à notre niveau, surtout pour les groupes, enfin les ETI ou même les PME qui travaillent à l'étranger, à l'international, sur les parties paiement cross-border ou remontée de flux de filiales vers les sociétés mères en France. On a des vraies problématiques là-dessus parce que le réseau aujourd'hui des flux financiers, des correspondants bancaires est un petit peu complexe et donc... la crypto peut être une vraie réponse là-dessus, en tout cas les stablecoins le sont, et permettre justement cette fluidité des transferts.
On rappelle pourquoi les entreprises et les institutionnels s'y mettent de plus en plus. Il y a des vrais avantages en termes de structure, d'infrastructure du stablecoin.
Ah oui, bien sûr. Par rapport au système financier traditionnel, effectivement, on a une exécution qui est beaucoup plus rapide, des intermédiaires en moins, donc moins de coûts, plus d'efficience. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils vont fortement s'y intéresser parce qu'on va avoir cette fluidité dans les échanges qui va être démultipliée. Et en plus de ça, l'idée n'est pas non plus juste d'avoir des stablecoins pour repasser ensuite en euros ou en dollars, mais de les conserver pour soi-même faire ensuite du paiement, payer des fournisseurs avec, pouvoir en envoyer à d'autres entreprises en fait avec lesquelles on travaille. Donc c'est devenu véritablement un outil aujourd'hui très utilisé par ces entreprises et pas que, puisque les particuliers aussi. Il y a toute la partie rendement qui est associée aussi à ces actifs là. Donc ils jouent un double rôle aujourd'hui essentiel et qui ne va pas remplacer évidemment le système financier traditionnel, puisque il y a beaucoup de choses qui sont on en est encore aux prémices.
Ouais.
Ça représente quand même des centaines de milliards de capitalisation et des milliers de milliards d'échanges on et off-chain. Donc voilà, ça suit son chemin, ça se structure. On n'est pas encore sur une adoption massive, mais voilà, c'est une réponse.
On a aussi ça répond à une problématique aussi d'accessibilité à certaines devises. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Tout à fait. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on s'en rend compte parce qu'on a évidemment, dans notre ADN, on travaille beaucoup avec des corporates, des corporates qui travaillent avec des zones parfois où il y a des devises qui sont, on va dire, en tension,
ouais,
avec les principales, notamment sur le continent africain ou en Amérique latine. On va avoir moins d'accès à du change pour les monnaies principales, donc de l'euro ou du dollar. Et donc, c'est sur ces monnaies-là, nous, on va pouvoir justement, grâce au stablecoin, avoir accès à plus de liquidités, puisqu'on a des opérateurs crypto locaux qui sont connectés aux correspondants bancaires. Dans ces zones-là, justement, les banques centrales, généralement, sont très vigilantes sur les mouvements de capitaux et qui sortent justement de ces zones. Et donc, c'est très... il y a une véritable régulation autour de tout ça, mais on va multiplier finalement les acteurs et donc on va avoir accès à plus de liquidités. Donc on va avoir une réponse réelle pour ces acteurs-là qui aujourd'hui se retrouvent avec des liquidités importantes bloquées dans les filiales de ces pays-là,
ouais,
ne sachant pas quoi en faire puisqu'ils ne les utilisent pas localement, ils veulent les remonter évidemment, donc c'est vraiment le casse-tête des trésoriers aujourd'hui d'entreprises. Et nous, on essaye justement de mettre en place ces nouveaux rails, ces nouveaux corridors de paiement pour remonter ces flux et ensuite... pouvoir les réutiliser.
On voit que la question des stablecoins est très présente, que ce soit sur notre continent ou aux États-Unis. Actualité aux États-Unis, le Clarity Act qui a été bloqué depuis des semaines sur une question de rendement des stablecoins. Il y a un compromis qui aurait été trouvé, enfin un compromis qui va plutôt dans le sens des banques, mais bon, on peut quand même se dire que ça avance. Arnaud.
Effectivement. Alors, donc juste pour rappel, le Clarity Act, c'est mai 2025, et depuis il y a ce blocage. Pourquoi ? Parce qu'on se pose cette question existentielle qui est-ce que nous pouvons envisager des rendements sur stablecoin ? Juste pour rappel, en Europe, cette question elle a été purgée, puisque les rendements sont tout simplement interdits,
oui,
qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils proviennent des émetteurs, voire de toute en réalité la chaîne. Et justement, au niveau du Clarity Act, il y avait un doute, notamment sur les plateformes d'échange. Je pense à Coinbase, qui était un peu, si vous voulez, les premiers à essayer de défendre justement la possibilité d'octroyer du rendement. Et cette porte, elle a été à moitié fermée. Je m'explique, puisqu'en réalité, on est arrivé à ce qui semble être un accord qui, attention, n'est pas définitif du tout, puisqu'on doit passer par un vote du Sénat d'ici quelques semaines. Donc rien n'est acquis, mais en gros, l'idée est la suivante. Le fait de détenir des stablecoins ne serait pas, en tant que tel, générateur de rendement. Par contre, ce serait l'usage du stablecoin, un peu un système d'American Express, si vous voulez, ou de Miles pour l'avion. C'est-à-dire que vous avez des stablecoins, vous les utilisez, que ce soit pour du stacking, pour du paiement, pour du transfert, pour le fait de participer à un protocole DeFi de liquidité. À ce moment-là, vous allez recevoir des rewards qui vont vous permettre in fine de recevoir du rendement. Mais le simple fait de détenir des stablecoins n'est pas en tant que tel susceptible de générer du rendement. C'est un peu le compromis sur lequel les Américains sont arrivés. Et je répète encore une fois, nous en Europe, la porte a été définitivement bloquée.
Pour une fois que ça a été tranché plus vite chez nous que aux États-Unis.
C'est ça. Bon, après, est-ce que ça a été tranché forcément de la meilleure des façons, ça chacun jugera. Mais en tout cas, effectivement, on a été le coup près est tombé de manière plus radicale.
Autre actu en faveur des stablecoins, Circle. Il y a Circle France qui a décroché son agrément MiCA et qui peut désormais proposer ses services crypto dans toute l'Europe, étape majeure donc pour l'USDC et l'ERC. Ça fait avancer un peu le stablecoin euro, alors que le stablecoin est libellé, hein, 99% en dollars. Oui. Edouard.
Oui, bah ça, c'est une première étape franchie pour Circle, ce qui est important, et pour le développement des stablecoins européens dans leur intégralité. On sait que c'est compliqué puisqu'il y a des intérêts divergents entre la Banque Centrale Européenne et les émetteurs privés, puisque à l'inverse de nos voisins américains qui ont accepté finalement de déléguer une partie de l'avenir de leur monnaie à des acteurs privés. En Europe, on est beaucoup plus réfractaire à cette idée. On l'a pu le voir avec les acteurs bancaires. Hein. General Forge a finalement une capitalisation de son stablecoin qui plafonne, même si ça commence à plus progresser. Mais globalement, oui, on est sur une capitalisation aujourd'hui de 700 millions d'euros pour les stablecoins euros, lorsqu'on est à 65 milliards, voire plus, même pour les stablecoins dollars. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut effectivement qu'il y ait un usage, et c'est ce qu'on essaye, nous, de promouvoir au travers des institutionnels, des corporates qui en ont besoin dans leur quotidien, dans leurs opérations quotidiennes. Et c'est peut-être ça, justement, cette régulation, le fait qu'il y ait des acteurs régulés de grande envergure qui va pouvoir, justement, inciter ces acteurs-là à s'en servir et donc à venir gonfler, finalement, les bilans des stablecoins euros.
Vous l'avez dit, hein, quand on parle stablecoin, les monnaies numériques de banques centrales, et les banques centrales ne sont jamais loin, c'est un débat très politique. Oui. On disait hier, on posait cette question avec Nathalie Janson, les stablecoins seront-ils utilisés à grande échelle pour le règlement des transactions financières? Daniel Heller dans le FT dit que non, car les mécanismes régissant les stablecoins ne sont pas assez sûrs. Alors Daniel Heller, il est plutôt pro-banque centrale, hein. C'était plutôt de ce côté-là, et c'est là qu'on voit à quel point cette question est très politique, de toute façon, Edouard.
Elle est tout à fait politique. Après, il ne ferme pas la porte non plus, pas du tout anti-crypto, mais il a un constat qui est très juste, et c'est bien ce qu'il dit, c'est que les stablecoins n'arriveront pas dans leur état actuel au niveau justement de pouvoir gérer les flux justement intra-bancaires aujourd'hui qui sont extrêmement conséquents, où on a besoin de ces chambres de compensation, on a besoin de ces contreparties pour pouvoir gérer ces flux.
Là, c'est une réalité en termes de sécurité, ça ne sera pas possible.
Ce ne sera pas possible. Ah ben non, parce que justement c'est la réponse de la d'après-crise 2008-2009. Ouais. Et de la chute de Lehman Brothers, justement, où on avait cette absence de chambre de compensation, où on avait ces chambres de compensation qui n'étaient pas assurées. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui ne permette pas que ça se reproduise. Et donc, tout ce qui est systémique aujourd'hui va forcément exclure les stablecoins dans leur état actuel. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver un jour. Mais voilà, il y a vraiment deux cas d'usage très différents. C'est justement ces flux intra-bancaires très importants dans lesquels on a besoin d'avoir cette sécurité. Nul de crédit, nul de dette, etc. Par contre, pour l'usage au quotidien des entreprises qui ne sont pas systémiques, mais pour leurs opérations du quotidien, ça, on est sur un cas d'usage complètement différent et où les stablecoins sont une réponse aujourd'hui. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Mais dans l'état actuel des choses, ils ne pourraient pas effectivement répondre à ces échanges, enfin, en tout cas, remplacer le système financier traditionnel aujourd'hui.
On a essayé d'avoir ce débat. Hein. Est-ce que l'un va remplacer l'autre ou prendre la place de l'autre? On a eu ce débat entre Jean-Marc Stenger et Éric Lacourèche sur ce plateau il y a quelques semaines. Je vous invite à le revoir sur notre replay parce que vous verrez qu'effectivement, on arrive à la fin à se dire que ce sera des rôles finalement différents et que ça va se compenser. Voilà, on cohabitera, les deux cohabiteront très certainement. Un dernier sujet parce que le temps passe. Arnaud Toiti, vous vouliez revenir sur l'état du marché crypto depuis quelques mois. Il y a Mika, hein, l'échéance MiCA qui arrive fin juin, début juillet.
Absolument, fin juin, début
voilà,
juillet.
Ça va, entre guillemets, faire le ménage. C'est une expression très laide, mais dans le secteur crypto, parce que ceux qui n'auront pas l'agrément MiCA en France, soit iront dans d'autres pays, soit vont disparaître.
Je crois que le ménage, en fait, ça fait plusieurs années qu'il est déjà en cours de route avec les bons et les mauvais points que ça peut représenter. On dit souvent que effectivement, ça a entraîné une institutionnalisation très claire de la blockchain. Je pense que les thématiques qui sont celles de l'émission cette année n'auraient pas été les mêmes il y a 2 ou 3 ans.
Non.
On a parlé des NFT. Bon, ça a été une thématique qui est arrivée et puis qui est repartie quasiment aussi rapidement qu'elle est arrivée. Il y a effectivement la DeFi qui vient et dont on se rend compte de plus en plus qu'elle va à un moment ou à un autre et probablement assez rapidement être rattrapée en réalité par la patrouille réglementaire, si je puis dire. Et puis là, on a la narrative stablecoin, qui est d'ailleurs, je pense, plus qu'une narrative, parce qu'effectivement, on a l'entrée en force des institutions financières dans cet écosystème, avec les bons côtés que ça peut représenter, incontestablement, mais aussi des côtés plus négatifs. Je pense effectivement à, si vous voulez, toutes ces sociétés innovantes de la crypto qu'on voit de moins en moins. Enfin, on va de salon en salon, on voit très bien que ça se tarit quand même très fortement.
Ouais.
D'ailleurs, souvent, ces sociétés passent à l'IA par pure opportunité pour certaines, mais d'autres simplement parce que, en fait, le coût finalement réglementaire est tellement élevé qu'ils n'y voient pas d'avenir réel. Et c'est vrai que moi, je suis un peu partagé, si vous voulez, par rapport à ça. C'est-à-dire, d'un côté, je salue le fait que la blockchain est, entre guillemets, entrée dans la cour des grands, d'une certaine manière. Donc ça, c'est positif. On a des gros acteurs, des acteurs bancaires, je pense à Delubac, je pense à d'autres, qui sont là et qui, finalement, anticipent un petit peu tout ça. Et puis, à côté, on a des acteurs aussi comme Coinbase, Kraken, qui sont des acteurs importants, qui ont énormément de moyens, qui sont des pure players crypto et qui, finalement, ont pour objectif de ratisser le marché. Et puis, à côté, on a des acteurs français, certains étrangers aussi, mais qui, on voit bien, sont quand même en délicatesse, sont en difficulté, vont peut-être obtenir MiCA. Est-ce qu'ils vont être capables, derrière, de gagner de l'argent, d'être florissants? Je pense que le sujet est posé. Mmh. Et moi, c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Je vois ce changement, avec d'un côté, finalement, il y a 10 ans, quand j'ai commencé la blockchain, la crypto, c'était la tech au service de la finance, et maintenant, c'est un peu l'inverse. Enfin, vous voyez, donc c'est plutôt... Enfin bref, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il y a un changement.
Il y a les banques, effectivement, de l'UBAC en tête, qui a eu MiCA il y a quoi, un an ?
Un petit peu moins, en octobre dernier.
Un petit peu moins d'un an, qui s'approprie une partie du marché. Mais est-ce que finalement, les investisseurs n'avaient pas besoin de ça pour entrer dans la crypto aussi, pour avoir plus de sécurité dans un secteur qui était très volatile ? Est-ce que ça répond à ça, peut-être, l'entrée des banques dans ce secteur-là ?
Ça répond à ça, oui. Il y a un véritable enjeu de sécurité, d'accessibilité, comme on en a parlé au début de cette émission. Aujourd'hui, c'est vrai que les investisseurs ont du mal à se diriger vers des plateformes natives où beaucoup, en tout cas nous, on le constate au niveau bancaire, ont été victimes d'arnaques. Il y en a quand même énormément sur ce marché-là aujourd'hui.
Ouais.
Et donc voilà, le fait que les banques rentrent dans la danse, c'est indispensable. Et puis surtout, ça vient aussi légitimer ce qu'on disait en début d'émission, c'est le cash-out. Comment est-ce qu'on le réalise si derrière, il n'y a pas une banque pour venir certifier vos crypto-actifs et dire, OK, nous, on a appliqué nos règles CBFT, on est venu confirmer qu'elles avaient été bien acquises, qu'elles n'ont pas transité par des plateformes douteuses, etc. Et donc, elles peuvent revenir ensuite être réemployées dans l'économie réelle. Et donc ça, les banques ont évidemment un rôle important à jouer là-dedans, mais ça va passer par, évidemment... un développement de leurs infrastructures en ressources humaines, puisqu'il faut du personnel certifié KYC et AML pour pouvoir justement vérifier tout ça, et puis intégrer des nouvelles technologies pour aller justement sourcer ces fonds on-chain, ce que l'on fait aujourd'hui. Mais voilà, donc je pense que effectivement cette mutation est en train de se faire aujourd'hui. Elle est longue, elle commence par les stablecoins, comme l'a dit Arnaud. On a beaucoup d'institutions financières. Il y a Kivalis qui est un consortium bancaire justement pour créer un nouveau stablecoin, Société Générale Forge, et j'en passe. Donc tout le monde est sur les rangs aujourd'hui, on l'a vu à la Paris Blockchain Week, les institutions financières sont là. Elles vont commencer par d'abord ce qu'elles savent faire le mieux, et puis ensuite derrière elles s'y ouvriront progressivement.
Est-ce que ça va complexifier ou simplifier le secteur, pour finir, Arnaud ?
C'est difficile comme question. Moi, j'aurais tendance à dire que ça va le simplifier, parce qu'en réalité ça va limiter de manière quand même assez importante le nombre d'acteurs, en tout cas en capacité de pouvoir réaliser un certain nombre d'activités régulées, ça c'est une certitude. Après, j'ai envie de dire, tout à l'heure, tu parlais à juste titre de la sécurité, du fait qu'il y a énormément d'arnaques, etc., ça on le voit. Paradoxalement, je ne suis pas certain que ça soit forcément une bonne chose pour les utilisateurs, je m'explique, parce que effectivement, les banques, il y a un certain nombre d'acteurs régulés qui ont pignon sur rue, mais ça veut aussi dire qu'il y a tout un tas de petits acteurs qui, eux, disparaissent et que ça laisse la place aussi, malheureusement, beaucoup à des acteurs non régulés. On voit la liste noire de l'AMF, hein, il n'y a pas une semaine où on ne voit pas de nouveaux acteurs qui apparaissent, acteurs étrangers, qui, etc., qui arrivent et qui n'ont pas du tout les mêmes exigences en matière notamment de KYC AML qu'on peut l'avoir. Donc au final, parfois, qui trop embrasse mal étreint, et c'est vrai que ça a, évidemment, comme pour tout, des bons côtés. Mais je ne suis pas certain que ça soit forcément la panacée dans les années qui viennent, donc on verra.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de compétences et de recrutement des banques. Il va falloir aller prendre les gens qui n'ont plus d'emploi dans leur boîte crypto. Là, on aura des vrais spécialistes sur le marché du travail, pour le coup, pour les banques derrière qui vont contrôler
l'activité. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors après, ce qu'on applique en banque aujourd'hui au niveau AML KYC, je pense un petit peu plus supérieur finalement à ce qu'on applique aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les fintechs, dans le secteur dans lequel je viens, et je rejoins Arnaud sur le fait que c'est dommage finalement de voir le paysage du Web3 se réduire en France, d'avoir moins de choix pour les utilisateurs, parce que chacun est arrivé justement avec son expertise. Mais oui, ça va, dans tous les cas, il y aura des talents à tous les niveaux à aller chercher, que ce soit sur la partie développement, sur la partie AML, KYC, compliance, etc. Mais ouais, et malheureusement, le marché a tendance à se réduire et se rétrécir.
Et ça, c'est s'assainir aussi, on peut le dire, grâce aux réglementations qui permettent aussi de sécuriser tous ces process, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Gwendal Texier, membre de la Commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest et cofondateur de l'Association notariale des actifs numériques. Arnaud Toiti, cofondateur et avocat associé chez Hashtag Avocat. Édouard Béliard, vice-président crypto développement à la banque de l'UBAC et compagnie. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission que vous pouvez retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.